Le gamin intelligent. Un. Par une belle matinée d'avril à Minneapolis, plusieurs mois avant que Tim Jamison débarque à Dupré, Herbert et Eileen Ellis furent invités à entrer dans le bureau de Jim Greer, un des trois conseillers d'orientation de la Broderick School pour enfants surdoués. Luc n'a pas d'ennui, j'espère ? Demanda Eileen en s'asseyant. Si c'est le cas, il ne nous a rien dit. Non, absolument pas, répondit Greer. C'était un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains clairsemés et au visage grave. Il portait une chemise de sport au col ouvert et un jean repassé. Vous savez comment les choses se passent ici, n'est-ce pas? La manière dont elles doivent se passer, compte tenu des capacités intellectuelles de nos élèves. Il n'y a pas de classe à proprement parler, c'est impossible. Nous avons des enfants de 10 ans légèrement autistes qui font des exercices de maths du niveau de terminale, mais qui lisent encore comme des élèves de CE2. D'autres parlent couramment 4 langues mais ont de gros problèmes avec les fractions. Nous leur enseignons toutes les matières et nous hébergeons 90% d'entre eux car ils viennent des 4 coins des États-Unis et même de l'étranger pour 10 d'entre eux. Mais nous concentrons notre attention sur leurs dons particuliers, quels qu'ils soient. Par conséquent, le système traditionnel dans lequel les élèves passent du cours préparatoire à la terminale nous semble totalement inadapté. Nous comprenons, dit Herb, et nous savons que Luc est un gamin intelligent, c'est pour cela qu'il est ici. Ce qu'il ne dit pas, mais Greer le savait certainement, c'était qu'il n'aurait jamais eu les moyens de payer les frais de scolarité astronomiques de cet établissement. Herb était contremaître dans une usine qui fabriquait des boîtes, et Lynn institutrice. Luc était un des rares externes de Broderick et un des très rares élèves boursiers. Intelligent ? Pas exactement. Greer regarda le dossier ouvert devant lui sur son bureau vide et immaculé, et Eileen eut le pressentiment qu'on allait leur demander de retirer leur fils de l'école ou leur annoncer que sa bourse avait été supprimée, ce qui reviendrait au même. Les frais de scolarité s'élevaient à 40 000 $ par an. Autant qu'à Harvard, en gros. Greer allait leur dire qu'il y avait eu une erreur. Luc n'était pas aussi brillant qu'ils l'avaient tous cru. Ce n'était qu'un enfant ordinaire, très doué pour la lecture, et qui semblait se souvenir de tout. Eileen savait, pour s'être renseignée, que la mémoire eidétique n'était pas rare parmi les jeunes enfants normaux. Entre 10 et 15% d'entre eux pouvaient mémoriser presque tout. Hélas, ce don disparaissait généralement à l'adolescence. Et Luc s'en approchait. Greer sourit. Je vais vous parler franchement. Nous sommes fiers d'offrir un enseignement à des enfants exceptionnels, mais jamais nous n'avions accueilli un élève tel que Luc. Un de nos professeurs émérites, M. Flint, âgé aujourd'hui de plus de 80 ans, a pris la liberté de dispenser à votre fils des cours sur l'histoire des Balkans. Un sujet complexe, certes, mais qui éclaire formidablement bien la situation géopolitique actuelle. À en croire Flint, du moins. Après la première semaine, il est venu me trouver pour me confier que cette expérience avec votre fils s'apparentait sans doute à celle vécue par les anciens juifs tensés par Jésus, pour qui ce n'était pas ce qui entrait dans leur bouche qui les rendait impurs, mais ce qui en sortait. « Je suis perdu », avoua Herb. Billy Flint l'était également, et c'est là où je veux en venir. Greer se pencha en avant. « Comprenez-moi bien. » Luc a assimilé en une seule semaine l'équivalent de 2 semestres de cours de licence et tiré seul la plupart des conclusions que Flint avait prévu d'évoquer une fois les bases acquises. Pour certaines d'entre elles, Luc a souligné de manière très convaincante qu'elles s'apparentaient davantage à des idées reçues qu'à une réflexion originale. Même si, a précisé Flint, il l'a fait très poliment, en ayant presque l'air de s'excuser. « Je ne sais pas quoi vous dire, » répondit Herb. Luc ne parle pas beaucoup de son travail scolaire. Il prétend qu'on ne comprendrait pas. Ce qui est certainement vrai, ajouta Eileen. J'ai peut-être su ce qu'était la formule du binôme de Newtown autrefois, mais j'ai tout oublié. Herb reprit la parole. Quand Luc rentre à la maison, il redevient comme n'importe quel autre gamin. Une fois ses devoirs et ses tâches terminées, il branche sa Xbox ou il joue au basket dans l'allée avec son copain Rolf, et il continue à regarder Bob l'éponge. Après réflexion, il ajouta même si, souvent, il a un livre sur les genoux en même temps. Exact, songea Eileen. Dernièrement, c'était « Principes de sociologie ». Et avant cela, William James. Et avant cela, le gros livre des alcooliques anonymes. Et encore avant cela, les œuvres complètes de Cormac McCarthy. Luc lisait comme broutent les vaches en liberté, en choisissant les endroits où l'herbe est la plus verte. Une bizarrerie que son mari choisissait d'ignorer, car cela l'effrayait. Elle aussi d'ailleurs. Voilà sans doute pourquoi elle ignorait tout des cours sur l'histoire des Balkans. Luc ne lui en avait pas parlé, car elle ne lui avait pas posé la question. « Nous avons des prodiges ici, » reprit Greer. « À vrai dire, je classerai plus de 50% des élèves de Broderick dans cette catégorie. Ils sont limités. Luc est différent, en ce sens qu'il est complet. Avec lui, ce n'est pas juste une chose. C'est tout. Je pense qu'il ne deviendra jamais un joueur de basket ou de baseball professionnel. S'il tient de moi, il sera trop petit pour le basket pro. » Herb souriait. « À moins qu'il soit le nouveau Spud Webb. » « Chut !» fit Aileen. « Mais il joue avec enthousiasme, » ajouta Greer. « Il y prend plaisir. Il ne considère pas que c'est du temps perdu. Sur un terrain de sport, ce n'est pas un empoté. Il s'entend bien avec ses camarades. Il n'est nullement introverti ni dysfonctionnel sur le plan émotionnel. Luc est un enfant américain typique, qui porte des t-shirts de rock et met sa casquette à l'envers. Sans doute ne serait-il pas aussi à l'aise dans une école ordinaire. La lourdeur quotidienne le rendrait fou. » Mais je pense qu'il s'en sortirait. Il poursuivrait ses études dans son coin. Greer s'empressa d'ajouter « Toutefois, je vous déconseille de faire le test. » « Nous sommes heureux qu'il soit ici, » dit Aileen. « Très. Et nous savons que c'est un gentil garçon. Nous l'aimons énormément. » C'est réciproque. J'ai eu plusieurs conversations avec Luc et il me l'a bien fait comprendre. Un enfant aussi brillant, c'est extrêmement rare. Mais un enfant qui est par ailleurs équilibré, avec les pieds sur terre, capable d'appréhender le monde extérieur aussi clairement que celui qui est à l'intérieur de sa tête, c'est encore plus rare. « Alors, s'il n'y a aucun problème, pourquoi on est ici ?» demanda Herb. « Même si ça ne me gêne pas de vous écouter chanter les louanges de mon fils, vous vous en doutez. Soit dit en passant, je lui file encore une raclée au basket. Mais il a un bon bras roulé. » Greer se renversa dans son fauteuil. Son sourire disparut. « Vous êtes ici parce que nous sommes arrivés au bout de ce que nous pouvons faire pour Luc, et il le sait. Il a exprimé le souhait de suivre une filière universitaire originale. Il aimerait préparer un diplôme d'ingénieur au Massachusetts Institute of Technology à Cambridge et un diplôme d'anglais à Emerson, de l'autre côté du fleuve, à Boston. « Quoi ?» s'exclama Aileen. « En même temps ?»« Oui. » « Et les tests d'entrée ?» C'est tout ce qu'elle trouva à dire. Il les passera le mois prochain, en mai, au lycée de North Community. Il va pulvériser tous les records. « Il faudra que je lui prépare un déjeuner, » pensa-t-elle. Elle avait entendu dire que la cafétéria de Northcombe servait une nourriture exécrable. Après un moment de silence stupéfait, Herb dit « Monsieur Greer, notre fils n'a que 12 ans. En fait, il les a eus le mois dernier. Alors peut-être qu'il est imbattable sur la Serbie, mais il n'aura pas de moustache avant 2 ou 3 ans. Et je comprends ce que vous ressentez. Et nous n'aurions pas cette conversation si mes collègues conseillers d'orientation et les professeurs n'avait pas la conviction que Luc était capable intellectuellement, socialement et mentalement de réussir. Dans les 2 universités, oui. Aileen déclara « Je n'enverrai pas un enfant de 12 ans à l'autre bout du pays avec des étudiants qui ont l'âge de boire de l'alcool et d'aller en boîte de nuit. S'il pouvait habiter chez des gens de la famille, ce serait différent, mais... » Greer l'écoutait en hochant la tête. « Je comprends, et je suis absolument d'accord. » D'ailleurs, Luc sait qu'il n'est pas prêt à s'assumer seul, même dans un environnement encadré. Il est très lucide. Pourtant, il souffre de la situation actuelle. Il se sent frustré et malheureux car il a faim de connaissances. Il est affamé. J'ignore à quoi ressemble la fabuleuse mécanique que recèle son crâne. Nul ne le sait, et je pense que le vieux Flint a vu juste en parlant de Jésus enseignant aux anciens. Mais quand j'essaie de me la représenter, j'imagine une gigantesque machine étincelante. Il fonctionne à 2% de ses capacités seulement. 5% au maximum. Et comme il s'agit d'une machine humaine, Luc a faim. Frustré et malheureux, répéta Herb. Ça ne se voit pas. Moi, je le vois, se dit Aileen. C'est dans ces moments-là que les assiettes s'entrechoquent et que les portes se ferment toutes seules. Elle songea à la gigantesque machine étincelante décrite par Greer. Assez imposante pour occuper 3 ou 4 entrepôts, et qui servait à quoi au juste? À fabriquer des gobelets en carton ou à estamper des plateaux de fast-food en aluminium? Il lui devait davantage. Mais ça? Et l'université du Minnesota, suggéra-t-elle. Ou Concordia, à Saint-Paul. S'il allait étudier dans l'une ou l'autre, il pourrait vivre à la maison. Greer soupira. Autant envisager de le retirer d'ici pour l'inscrire dans un lycée ordinaire. Nous parlons d'un garçon pour qui les évaluations de QI ne veulent rien dire. Il sait où il veut aller. Il sait ce dont il a besoin. Je ne vois pas comment on peut faire, dit Eileen. Il obtiendra peut-être des bourses pour étudier là-bas, mais nous, on travaille ici. Et on ne roule pas sur l'or. Justement, parlons-en, dit Greer.